Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Leguet.
Chantal Delsol, bonjour.
Bonjour.
Que dire de vous ? On peut dire que vous êtes néo-conservatrice, c'est vous-même qui dites de vous-même,
oui. Ou
une libérale conservatrice, ou une non-conformiste de droite. On peut dire aussi que vous êtes viscéralement hostile à l'esprit de mai 68, et que dans ce livre, Le souci contemporain, que vous avez écrit en 1996, donc vous indiquiez effectivement que vous réfléchissiez sur la question du désarroi de nos contemporains, donc de sa conscience d'imperfection, de l'exil de Dieu, de la sacralisation des droits. D'un point de vue académique, vous avez été l'élève de Julien Freund, philosophe contre l'angélisme, dites-vous de lui.
Oui.
Vous êtes professeur des universités et membre de l'Institut, donc de l'Académie des sciences morales et politiques. Vos références, vous me direz si je me trompe, sont plutôt à trouver du côté de Julien Freund, que vous considérez comme votre maître à penser, d'Anna Arendt, de Patochka.
Oui.
Et donc, nous vous recevons aujourd'hui pour votre dernier livre, donc « L'âge du renoncement au cerf » qui vient de paraître sur la question des religions. Alors, votre thèse, je la résume rapidement pour qu'on puisse plus facilement en parler, est la suivante, c'est que nous assistons en ce moment à la fermeture d'une parenthèse, la parenthèse étant celle du judéo-christianisme, et après, donc tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe après la fermeture de cette parenthèse, il y aura le retour des mythes, le retour du temps circulaire, et que le nihilisme, donc, dans lequel certains considèrent que nous baignons et que nous continuerons à baigner, n'est pour vous qu'un moment transitoire pour le retour du paganisme. Alors, je voudrais dans un premier temps qu'on essaye de mieux comprendre ce que vous considérez que le christianisme a pu apporter à notre âge, à notre époque, à notre civilisation. Cette coupure géologique là, dont parle Ponsveen, je vous cite donc page 29, « L'apparition d'une vérité métaphysique puis religieuse en Occident à l'âge axial marque l'existence d'une mentalité nouvelle ». Alors, quelle est cette mentalité nouvelle qui, comme on le verra, est remise en cause et donc va sans doute déboucher sur une remise en cause complète et donc un retour à ce qui a été perturbé, si l'on veut, par le christianisme.
D'accord. Juste un mot, si vous voulez bien, sur ce que vous avez dit au début à propos de cette parenthèse. Ce que j'aurais précisé, c'est qu'il ne s'agit pas d'annoncer, entre guillemets, la fin du judéo-christianisme en tant que religion-révélation. Je ne pense pas que cette religion va cesser d'exister. Il y aura toujours des juifs et des chrétiens, même s'ils sont sans doute moins nombreux. En réalité, ce dont je parle, là, c'est la fin de la chrétienté. En tant que cette religion a eu une influence absolument déterminante, c'est elle qui a fondé cette civilisation et qui a eu une influence déterminante jusqu'à il y a très peu de temps finalement, à la fois sur la morale, la politique, les arts, etc. Enfin, cette religion a été le pivot, le pilier, et justement, elle ne l'est plus. Donc, elle continue à exister naturellement à travers des disciples qui existent vraiment et qui sont organisés. Mais elle ne constitue plus qu'une partie. Elle est une parmi d'autres. Le comité d'éthique, par exemple, est composé de, peut-être, je ne sais pas exactement, mais imaginons de chrétiens, de juifs, de francs-maçons, un marxiste, etc. Bon, nous sommes, nous, les chrétiens, maintenant, un petit nombre, ce n'est plus nous qui influençons la civilisation. Alors, je voudrais simplement dire en plus que je ne m'en réjouis pas de ce fait. Donc, j'essaie de décrire une situation, mais bon, personnellement, je suis embarquée dans le catholicisme et je ne m'en suis jamais cachée. Donc, je fais une description simplement. Voilà.
Alors, on peut juste préciser, excusez-moi, que, un, effectivement, certains, à tort, vous ont reproché de prophétiser quelque chose que vous auriez souhaité, alors qu'il est clair dans votre livre, en introduction, en conclusion, que pour ce livre-là, vous êtes uniquement dans l'analyse, dans la compréhension de ce qui se passe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est bien, me semble-t-il, vous me comprenez si je me trompe, mais dans la continuité de la sortie de la religion dont parle Marcel Gauchet. C'est-à-dire que c'est un constat et donc ça ne concerne pas les personnes.
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors maintenant, en ce qui concerne votre première question, donc finalement, quel est l'apport du christianisme ? Cet apport que précisément nous sommes en train de perdre avec l'effacement, disons, du christianisme en tant que chrétienté, c'est-à-dire en tant qu'influence, c'est justement l'idée de vérité, l'idée d'une vérité. Alors en plus, après, cette vérité se dévoile, mais l'idée même qu'il existe une vérité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, est une idée neuve en Occident, dans ce qu'on appelle, ce que Jaspers a appelé, on peut reprendre cette expression, l'âge axial, c'est-à-dire aux alentours du 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire le moment où sont nées sur tous les continents toutes les grandes religions, sagesse, pensée, enfin, on peut dire comme on veut, à peu près à cette époque-là, à quelques siècles près. Donc à ce moment-là, apparaît en Occident l'idée qu'il existe une vérité. Alors ici, on parle d'une vérité après la physique, si vous voulez dire, si on peut dire métaphysique ou religieuse, c'est-à-dire il s'agit de la réalité de quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas démontrer, qui n'a rien à voir avec la physique, la chimie ou les apparences, et dont pourtant on a le sentiment, la certitude intérieure, qu'il s'agit d'une réalité. Mais c'est une réalité qui est à la fois spécifique et exclusive surtout. C'est-à-dire que si elle est vraie, le contradictoire est faux. Et ça nous paraît tout à fait naturel. Quand on entend ça, on se dit, mais ben, voyons, c'est la simplicité même. Or, ce n'est pas la simplicité même pour toutes les civilisations. Les civilisations autres que l'occidentale sont en général toutes syncrétistes. Ce qui avait frappé le plus Matteo Ricci quand il a pu, une fois arrivé en Chine, comprendre le chinois correctement et donc devenir véritablement l'un des leurs, ce qui l'a le plus frappé, c'est le syncrétisme chinois. C'est le fait que c'était des gens qui allaient aussi bien dans le temple de telle religion que dans le temple de telle autre religion. Ça ne les gênait pas. Tout était... C'est pas que tout était vrai à la fois, ni que tout était faux, c'est que l'idée même de vérité n'était pas dans leur tête. Et c'est précisément l'un des deux problèmes majeurs qu'il a eu quand il a essayé de convertir les gens. Le deuxième problème étant le problème de la monogamie, c'est encore autre chose. Donc l'idée même qu'il existe une vérité au-delà des apparences, est une idée neuve quand elle apparaît en Occident. J'ai cité ces trois exemples qui me paraissent significatifs. La manifestation de Yahvé dans le désert, donc... Il apparaît un Dieu unique qui est considéré comme la vérité, une personne vraie, véritable, qui n'a pas d'apparence, mais dont pourtant on peut être sûr. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas des doutes, parce que justement, tout le problème, c'est que ce n'est pas une certitude mathématique. Et puis ensuite, l'apparition de l'idée de vérité chez Parménide, alors là, sans aucune manifestation religieuse, et ensuite la résurrection du Christ.
Mais alors, pour qu'on comprenne bien, vous dites donc que ce qu'apporte le judéo-christianisme, c'est... l'idée de vérité. Alors, quel est le changement de nature, si changement il y a, entre l'idée de la vérité chez les Grecs et celle promue par les chrétiens ?
La différence que l'on peut trouver par rapport aux questions dites existentielles. Questions existentielles, c'est-à-dire, d'où est-ce que je viens ? Où vais-je ? À quoi est-ce que je sers ? Qu'est-ce que je signifie ? Pourquoi dois-je mourir ? Etc. Des questions essentielles. Devant ces questions essentielles, finalement, je crois qu'on n'a rien trouvé d'autre que deux manière de répondre. De répondre, je ne dis pas de solutionner, car naturellement, on ne solutionne jamais ces questions, mais au moins de répondre. La réponse des sagesses, que l'on trouve donc avant le christianisme et que l'on trouve ailleurs, chez la plupart des autres peuples, c'est de faire en sorte que la question soit ne se pose pas, soit considérée comme une illusion. Et donc, on essaye de n'y pas penser, de ne pas être malheureux avec cette question, disons de passer par-dessous la question. De faire une sorte de circonvolution autour de la question, plutôt que de l'affronter, puisque soit on considère qu'on ne pourra jamais y répondre et que ça ne sert à rien, c'est une fumée, soit on considère qu'en fait il n'y a pas de question et que c'est nous qui l'inventons. Bon, ça dépend évidemment des pensées, car les pensées de sagesse sont extrêmement riches et sophistiquées et très intéressantes. Donc c'est la première manière, disons, d'aborder ces questions terribles, mortelles. Et puis la deuxième manière, c'est précisément celle qui a été découverte, certains diront inventé, au moment de l'apparition du judaïsme et du christianisme, c'est d'affronter la question et de dépasser la question en disant « Eh bien, cette question aura une réponse. » Donc, cette question existe, elle est importante, elle est réelle, elle est tragique, mais elle a une réponse. Et ça ne devient possible que lorsqu'il y a révélation. Alors, la manifestation de Yahvé dans le désert, ce n'est pas encore une véritable révélation au sens où le Christ est une révélation. Mais bon, évidemment, il ne faut pas jouer avec les mots. Les deux religions sont assez différentes, même si quand même, elles se suivent l'une l'autre. Et puis, ce sont des monothéismes et c'est le même Dieu, au fond. Donc, il y a une manifestation de la vérité. Et à ce moment-là, eh bien, on répond à la question par la foi. On a foi en une vérité qui répond à la question. C'est une autre façon. J'avais, dans mon ouvrage précédent, pour essayer de faire comprendre cela, parce que j'avais déjà commencé à en parler, et là, dans l'âge du renoncement, j'ai appuyé davantage, mais j'avais donné comme comparaison la mort de Socrate et la mort du Christ. Et c'est très intéressant parce que même si Socrate pose quand même quelques questions, et les platoniciens, enfin même Platon et Aristote sont déjà plus ou moins pré-chrétiens, même si Socrate pose aussi la question de savoir ce qu'il y a après et tout, il a finalement une attitude de sage devant la mort. C'est-à-dire une attitude à la fois rationnelle et froide. L'essentiel étant, pourquoi aurais-je peur de la mort, puisque au moment où j'y pense, je ne suis pas encore mort, et quand je serai mort, je ne pourrai plus y penser. Ça, c'est l'attitude qui consiste à dire à quoi sert de se poser la question, puisque de toute façon, je ne peux pas y répondre, et je suis en train de me donner du souci pour rien, ainsi dire. Alors, bon, on peut tout penser de ce que dit Socrate. On peut dire que c'est de la provocation. Ça n'en est pas, d'ailleurs, je ne pense pas. On peut dire que c'est la rationalité, mais que nous ne sommes pas des êtres rationnels. Bon, mais enfin, en tout cas, c'est la réponse que donne le sage. Tandis que le Christ sur la croix, non seulement il souffre, mais il se révolte d'une certaine manière à un moment donné. Alors, évidemment, il cite une parole d'un psaume. Bon. Mais enfin, il a l'attitude de quelqu'un face au tragique de la mort et face à la question de l'après. C'est complètement différent.
Ah, donc, vous dites, il y a préalablement à cela, il y a soit une manière d'évacuer la question, soit de la reléguer à plus tard,
soit de ne
pas la poser.
Oui, d'une certaine manière.
Soit il y a donc ce que Nietzsche appellera plus tard une largeur de sympathie, c'est-à-dire une coexistence de toutes les vérités, quelles qu'elles soient, qui sont toutes bonnes, et donc le syncrétisme dont vous parlez. Et il y a donc une nouveauté, c'est ça, chrétienne, qui consiste à dire, oui, il y a de la vérité, et donc, qui dit vérité, dit séparation entre le vrai et le faux.
Exactement.
Voilà. Donc c'est ça, à votre avis, l'élément essentiel cette nouveauté chrétienne qui apparaît.
De la nouveauté de cette civilisation, parce que la nouveauté chrétienne, c'est le fait que cette vérité, c'est un Dieu personne et un Dieu amour. Bon, c'est ça qui est essentiel. Et donc un Dieu qui donne son Fils, qui ressuscite. Enfin, c'est plus vaste que cela, mais effectivement, je pense que l'idée de vérité est une vérité qui nous fonde, et c'est effectivement, je pense, cela qui est en train de plus ou moins de s'effacer.
Alors, avant de venir à ce qui s'est effacé, est-ce qu'on peut considérer que cette vérité qui existe et qui est à la fois dans le monde et en dehors du monde est un élément ô combien essentiel pour poser ou pour affirmer le nouvel homme d'une nouvelle anthropologie qui serait l'anthropologie chrétienne. C'est une question. Alors dans le livre, vous renvoyez à un très beau poème qui me permettra d'illustrer ce propos d'Octavio Paz. « Je suis homme, je dure peu et la nuit est énorme, mais je regarde vers le haut, les étoiles écrivent, sans comprendre, je comprends, je suis aussi écriture, et en ce même instant, quelqu'un m'épelle. » Est-ce que ça, à votre avis, donc, ça veut dire qu'il n'y a de vérité personnelle, de compréhension de soi-même, que par référence à quelque chose d'extérieur à soi, qui est donc cette notion de vérité, ou cette personne, ce Dieu, qui est à la fois présent et à la fois extérieur?
Est-ce que vous voulez dire qu'il n'y aurait de sens de ma vie qu'à travers cette croyance ou cette...
Par l'idée qu'effectivement, il y a cette... Si on reprend ce texte-là, qu'il y a effectivement ce regard porté sur les étoiles qui me permet à moi d'exister, d'écrire, etc. Donc ce n'est que par la métaphysique, enfin, que je suis capable de pouvoir me comprendre moi-même. Est-ce que c'est ça que...
Oui, me comprendre moi-même en tant que tout. Oui, je pense. Je pense. Mais maintenant, peut-être suis-je pollué par ma propre croyance. Mais enfin... C'est en tout cas mon opinion. Alors, ça ne signifie pas évidemment que les sociétés très très nombreuses, en fait toutes sauf nous, qui vivent dans les périodes de sagesse ou qui vivent à travers les sagesses, ça ne signifie pas que ces sociétés sont composées de gens qui ne donnent aucun sens à leur vie, car on peut donner à sa vie un sens beaucoup plus basique et beaucoup plus quotidien, et on peut ne pas se poser de questions aussi, tout le monde ne s'en pose pas. Mais je pense que si l'on veut considérer le sens global, le sens général que l'on peut donner à sa vie, c'est à travers ce type de vérité que l'on passe.
Alors, il y a deux autres choses que vous indiquez donc, sur cet âge chrétien. Enfin, d'une part, l'idée que, effectivement, le monothéisme judéo-chrétien, je vous cite, ouvre la voie à la démocratie. Et deuxième chose, vous parlez du temps fléché, c'est-à-dire du temps qui est dirigé vers quelque chose et qui permet donc d'être un temps en progrès, donc d'accepter le progrès, donc d'envisager le progrès. Et donc ça serait cette deuxième, enfin ou troisième nouveauté chrétienne qui vient rompre avec le temps circulaire d'avant. Est-ce que vous pouvez mieux nous faire comprendre ces deux novations-là, donc politique, démocratie, et ce temps fléché qui s'oriente vers quelque chose et qui accepte, qui même fait naître l'idée de progrès?
Oui, alors avant de passer à ces points, je voudrais juste, pour essayer de m'expliquer un peu mieux, dire ceci. Au fond, ce que je voudrais montrer à mon lecteur, c'est que nous ne sommes pas en train de tomber, à mon sens, dans un âge de nihilisme permanent, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Le nihilisme a été un moment de rupture. Ça, bien sûr, ça existe encore un peu, mais bon, on ne peut pas vivre dans le nihilisme. Mais en revanche, je pense que cette religion qui ne structure plus les sociétés est en train, déjà, de se faire remplacer par des sagesses. Et on peut vivre dans la sagesse, car il y a beaucoup de sociétés qui vivent dans la sagesse, qui vivent très bien, qui sont des sociétés magnifiques, sophistiquées, intelligentes. Et les hommes qui sont là ne sont pas plus malheureux que nous. Ils sont... Bon, voilà. Mais ce que je voudrais montrer à mon lecteur, c'est que si nous allons vers cette sagesse, nous allons perdre un certain nombre de choses qui ont été apportées précisément par cette vérité et par cette religion. Et ce qu'il faut voir, c'est ce que nous allons perdre. Parce qu'il faut accepter la sagesse, c'est une chose, mais il faut aussi accepter tout ce qui va avec. Et c'est précisément ça que je veux montrer. Je veux simplement aller jusqu'au bout de cette sagesse pour montrer bon, ce qu'il faut accepter en sus. Voilà. Et donc, ici, je tombe sur ce que vous venez de nommer, notamment la question politique, par exemple, la question du temps ou la question des mythes moraux. Alors, si vous voulez, prenons la démocratie. Bon, parce que d'abord, c'est une chose, c'est assez amusant, la démocratie, finalement, c'est toujours quelque chose d'intéressant. La démocratie, alors, sur quoi repose-t-elle? Elle repose sur deux pieds, finalement. Le premier, c'est la liberté personnelle. Le fait que l'homme a une indépendance d'esprit et qu'il peut avoir sa propre opinion, non seulement parce qu'il a la capacité de diriger son propre destin, mais en même temps, il a la capacité de diriger le destin commun et de dire « je veux que la société aille dans tel ou tel sens ». Alors, pourquoi peut-il faire ça? Parce qu'il est considéré comme une personne. Et une personne, c'est une substance globale qui possède un fond, un fond très profond, et qui, par conséquent, peut avoir sa propre idée sur le monde et sa propre perception des choses, et qui est un cosmos pratiquement à soi seul, même si ce cosmos n'est pas séparé des autres. Dans une sagesse, vous ne retrouvez plus cette idée de personne. Alors, ça, c'est le premier pilier de la démocratie, finit par s'effondrer si on ne croit plus à son fondement. Et puis, le deuxième pilier de la démocratie, c'est la vision de l'avenir. La démocratie n'a de sens que si un certain nombre de partis sont représentés, et ces partis représentent chacun une vision du monde. Une démocratie n'en est pas une si chaque parti représente, par exemple, une tribu ou par exemple, s'il n'y a que le parti des retraités, le parti des jeunes filles, le parti des, vous voyez, des possesseurs de chiens, etc. Ça n'est pas une démocratie. C'est une démocratie s'il y a des socialistes, des libéraux, voilà, des gens qui portent des visions du monde. Or, pour avoir des visions du monde, il faut croire au progrès. Le progrès, c'est le temps fléché. Le temps fléché a été constitué par les deux monothéismes, par le monothéisme judéo-chrétien. Et ensuite, il est devenu le progrès lorsque la religion s'est effacée. Et actuellement, nous croyons de moins en moins au progrès. Et c'est pourquoi la démocratie s'efface. Donc s'il n'y a pas d'un côté la personne, de l'autre côté l'idée du progrès, la démocratie pratiquement n'a plus de sens. Et je pense que c'est pourquoi nous sommes en train de voir apparaître des choses comme la démocratie participative, le consensus, la gouvernance, des choses qui ne sont plus du tout des démocraties, ce que j'essaie de démontrer dans ce chapitre.
Oui, ça veut dire, et puis comme ça nous permettra de faire la transition avec ce que nous vivons en ce moment, ça laisserait supposer, donc si on suit bien votre pensée, qu'il ne peut pas y avoir de vraie démocratie sans, disons, un cadre judéo-chrétien. C'est-à-dire que la sagesse et la démocratie sont, si je pousse un peu le bouchon plus loin, la sagesse et la démocratie sont incompatibles. Ou, à ce moment-là, il y a un changement de la démocratie qui fait qu'une démocratie sage ou une démocratie de sagesse devient autre chose que la démocratie telle que vous l'entendez.
Oui, alors il faut bien, quand on parle ici de la sagesse et de la démocratie, il faut dire la sagesse seule, sans religion, parce qu'il peut y avoir une sagesse à l'intérieur d'une religion. D'ailleurs, les chrétiens ont eu une multitude de saints qui étaient en même temps des sages, ou de sages qui n'étaient pas forcément des saints, mais qui influençaient énormément cette religion et qui étaient très importants. Donc. Mais lorsqu'il y a une sagesse, simplement une sagesse, sans aucune vision religieuse, alors effectivement, il n'y a, enfin, en tout cas, on n'a jamais vu dans l'histoire qu'il y ait des tentatives de démocratie. La démocratie est née, en tout cas la démocratie moderne, est née dans des contrées judéo-chrétiennes. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est historique. La démocratie a commencé à naître dans les monastères avec Saint Benoît et elle s'est développée. Nous sommes le seul lieu du monde où il y a des démocraties. Alors après, elles peuvent s'exporter, plus ou moins bien du reste. Mais pourquoi est-ce que nous sommes le seul lieu du monde où il y a des démocraties? Parce que cette démocratie est assise sur des fondements qui sont chrétiens. Alors après, elle peut très bien se continuer, se poursuivre, tout en conservant ses fondements, sans plus admettre du tout les vérités chrétiennes. Néanmoins, il faut tout de même admettre ses fondements.
Alors, passons au deuxième point, donc, qui est le cœur de votre ouvrage. qui consiste à dire donc que nous avons quitté l'âge de la foi. Donc vous avez bien précisé au début qu'effectivement vous ne parlez pas de la foi personnelle des individus et du fait qu'il y a des chrétiens, des gens religieux, mais l'époque, disons, nous avons quitté l'âge de la foi au profit de la sagesse. Donc vous avez indiqué effectivement que pour vous, le nihilisme, dans lequel semble-t-il nous baignons depuis au moins Nietzsche, pour faire vite, n'est qu'une parenthèse de courte durée et que nous sommes déjà, vous allez nous préciser cela, dans l'âge de la sagesse. Alors comment est-ce qu'on est passé de l'un à l'autre, hein? Et puis après on verra comment, enfin ce qu'on a perdu, parce que c'est ça votre idée, c'est ce qu'on a perdu en opérant cette mutation, cette transmutation, ce reniement de la foi au profit de la sagesse. Quelles sont les étapes, si vous voulez, de ce passage?
Alors, il faut préciser que la foi, c'est une folie. Paul le disait déjà, parce que Paul de Tarse, il rencontrait les sages. Et il avait en face de lui des stoïciens, des épicuriens, et dans certains de ses textes, des textes de Paul, on trouve ces discussions. Et c'est à ces moments-là qu'il dit à quel point la foi est folie qui s'oppose à la sagesse des sages. La foi est folie parce qu'elle est ce que Jacobi appelait un salto mortal, ce que je préfère appeler un saut mortel qu'un saut périlleux, parce que saut périlleux, ça rappelle la gymnastique. Tandis que là, c'est vraiment un saut mortel au sens où, véritablement, il faut franchir un vide, quoi. Il faut passer d'une rive à l'autre en sautant. Et donc, le doute est toujours là et c'est toujours grave de conséquences, d'une certaine façon. Alors, pourquoi est-ce qu'on quitte l'âge de la foi? Alors,
précisément, comment plutôt? Voilà.
Comment quitte-t-on l'âge de la foi? Parce que c'est l'âge de la vérité, l'âge de la foi. Et les vérités, parce qu'on y adhère très fort, et parce qu'elles sont exclusives, comme je l'ai dit, peuvent devenir des fanatismes. La foi chrétienne elle-même s'est transmuée à plusieurs reprises dans l'histoire en fanatisme, nous le savons bien. Et puis, lorsqu'est arrivé l'âge des Lumières, la saison révolutionnaire, qui s'étend sur un certain temps, et c'est pas seulement en un point, eh bien, l'idée de vérité n'a pas cessé d'être, mais simplement, les vérités sont passées du transcendant à l'immanent. Et donc, on est passé de l'âge des religions à l'âge des idéologies, qui sont devenues totalitaires, donc idéologie au 19e, devenue totalitaire au 20e. Et c'était toujours des vérités exclusives, auxquelles on croyait extrêmement fort, et pour lesquelles on était capable à la fois de tuer et de mourir. Et on a vu se déployer au 20e siècle d'immenses fanatismes, au nom de certaines vérités, qui étaient, au fond, des sortes de dévoiements de l'idée première de vérité, ou si vous préférez, des profanations. Parce qu'au fond, l'idée de vérité a été profanée par ces totalitarismes. Et du coup, après, on n'en a plus voulu. Et c'est ce qu'on voit apparaître à partir de l'après-guerre. Bon, j'ai cité quelques écrivains, mais il y en a que je trouve particulièrement éloquents à cet égard, ou des gens comme Giono, par exemple, ou comme Camus. Des gens qui montrent à quel point, bon, bah, maintenant, la vérité et la foi dans la vérité, ça suffit. Ça suffit parce que ça nous entraîne trop loin. Et donc, il vaut mieux s'en remettre à un certain nombre de croyances très simples ou de ce que, après Camus, quelqu'un comme Vattimo, notre contemporain, va appeler le pensiero debole, c'est-à-dire la pensée faible. Alors, la pensée faible, ça veut dire faible au point de vue de la croyance. Ça veut dire, au fond, cette pensée, j'y crois, mais pas trop. J'y crois à moitié. J'en suis pas sûr. Au fond, je ne suis pas sûr de ma propre opinion. Ou alors, ce n'est qu'une opinion, on pourrait dire les choses de plusieurs façons. Ce qui n'a rien à voir, évidemment, avec la foi du croyant. Et alors, avec toutes ces pensées faibles qui maintenant nous occupent, les choses deviennent très, très différentes, forcément.
Mais est-ce que ce n'est pas le lot naturel, la conséquence naturelle de ces vérités idéologiques qui, comme vous le dites, se sont érigées en vérité absolue et avec les conséquences catastrophiques et totalitaires que l'on a connues. Donc la faiblesse est sans doute aussi, la pensée faible est aussi un contre-coup d'apaisement face à ces vérités qui effectivement ont massacré des millions et des dizaines de millions de personnes.
Il y a un reflux, l'idée de repousser tout cela et finalement de renoncer, c'est pourquoi je parle de renoncement, de renoncer à la vérité parce qu'elle nous a fait trop de tort. Finalement. Et c'est une sorte de fatigue en même temps. Ça nous entraîne trop loin, tout ça. Nous en avons assez de toutes ces croisades. Nous avons envie de tranquillité, au fond. C'est trop dangereux, la foi, finalement.
La vérité.
La foi dans la vérité, oui. C'est trop dangereux. Alors, bien entendu, on est en train de perdre ce qu'on voulait perdre, à savoir les fanatismes, mais en même temps, on perd d'autres choses. Voilà. Ce qu'il faudrait voir, c'est ce qu'on perd en plus. Parce qu'il y a des choses qu'on est content de perdre, auxquelles on est content de renoncer. Et puis, il y a des choses qu'on va perdre et qu'on ne voit pas encore.
Alors, vous indiquez un ensemble de transitions. Donc, comment est-ce qu'on est arrivé? Vous dites qu'il y a le passage de la vérité à l'utile, le refus de définir le bien, la primauté de l'économie, et puis, avec Machiavel, la croyance religieuse devient un moyen politique comme un autre. Donc tous ces éléments-là, dites-vous, semblent contribuer à affaiblir effectivement le statut de la vérité, hein, et sera récupéré, peut-on dire, peut-être, par ces vérités tueuses, sanglantes, totalitaires, telles qu'on l'a connue au XXe siècle.
C'est vrai que la transformation de la vérité en utilité, ça date d'il y a très longtemps. J'ai repéré 2-3 auteurs, mais on pourrait développer beaucoup plus, naturellement. Je pense que c'est simplement l'annonce de la perte de la foi qui est tellement ancienne, enfin qui date de plusieurs siècles, à mon avis du XVIe surtout, et qui ne peut pas se dire à cette époque. À cette époque, on ne peut pas dire qu'on n'a pas la foi, c'était très difficile. Donc on voit que les auteurs, au fond, n'ont plus la foi, ne croient plus à toute cette religion qui les entoure et qui est quand même très pesante, parce que finalement, ce qui les intéresse, c'est l'utile. Et lorsque le bien est transformé en utile, ça veut dire que tout est devenu immanent, au fond. Ça veut dire que la transcendance s'est déjà effacée. Alors, c'est pourquoi j'ai montré ce chemin qui est une sorte de chemin pointillé et qui mène jusqu'à aujourd'hui. Alors, en même temps, il y a, et ça va ensemble, il faudrait montrer les liens, il y a, on voit apparaître ça à peu près au XVIIe siècle, par exemple, la transformation de la guerre en commerce ou la volonté d'effacer la guerre pour la transformer par le commerce, qui montre bien précisément qu'on ne veut plus faire la guerre parce qu'on n'a tout simplement plus vraiment les raisons de la faire. Non pas qu'on faisait toujours la guerre pour des raisons religieuses, mais finalement, on se détache de tout ce qui était tellement important qu'on allait se battre pour cela. Et on fait du commerce, c'est-à-dire qu'on s'intéresse particulièrement aux intérêts, donc à ce qui est matériel, immanent, au lien social, tout simplement. Et c'est déjà les prémices, sont déjà les prémices de notre époque.
Alors nous allons observer une petite page musicale et nous reprenons juste après notre entretien donc avec Chantal Delsol. Nous recevons donc Chantal Delsol pour son livre « L'âge du renoncement ». Nous avons dans une première partie essayé de voir quels étaient les éléments de novation du christianisme. Et puis, deuxièmement, nous avons essayé de montrer, ce qui est au cœur de votre livre, les éléments de transition, de changement de l'âge de la foi, si on veut dire ça comme ça, à l'âge des sagesses. Alors, repartons de là, si vous le voulez bien. Il y a un point qui est assez étonnant dans ce que vous dites, c'est... Un, effectivement, de considérer que le nihilisme, et j'en reviens un peu là-dessus, oui. Que le nihilisme n'est pas comme on semble le considérer, donc un état permanent qui va se prolonger comme cela, et que sous, pour le dire comme cela, et vous employez quasiment cette formule comme cela, sous la plage du nihilisme, il y a la sagesse antique et le retour à ces vérités païennes d'autrefois. Donc un, pourquoi est-ce que, effectivement, pour vous, le nihilisme n'est que... une parenthèse, vous avez même employé une vérité germanopratine, enfin, quelque chose qui n'a pas vraiment de réalité ou de consistance par rapport, effectivement, à ces sagesses antiques. En quoi est-ce que le nihilisme, pour vous, je dirais pas n'existe pas, mais enfin, n'a pas de vraie réalité ?
Alors, le nihilisme a une réalité au sens où il a constitué, et même il constitue encore, d'une certaine manière, le temps de la rupture, de la cassure. C'est le moment où on se débarrasse, où on crée une espèce de tabula rasa, même si ça n'existe jamais, une véritable tabula rasa, mais quand même. Vous avez parlé de Nietzsche, mais on pourrait aller beaucoup plus loin, et même en remontant un peu dans le temps, on pourrait parler de la période de Sade. De Sade, de Shelley, de Byron. Là, il y a véritablement une forme de nihilisme, au sens où on franchit absolument toutes les barrières, où on démolit même toutes les barrières, où plus rien n'est sacré. Plus rien n'a de sens et il n'y a plus de fondement finalement, on détruit tout. Et donc cette période de nihilisme, elle va durer quand même, elle va quand même durer 2 siècles, hein, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, il existe encore des nihilistes dans notre temps, naturellement. Mais si je dis que ça n'a pas de consistance, C'est d'abord parce que je pense qu'on ne peut pas vivre là-dedans. On ne peut pas vivre dans la transgression totale. On ne peut pas vivre sans considérer qu'il y a un sacré quelque part. D'ailleurs, regardez, dans nos sociétés où finalement tout est plus ou moins relatif, il y a encore du sacré, puisqu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, des choses qu'il faut absolument dire. Donc, on reconstitue finalement du sacré et du tabou, toujours. Alors ça peut venir de l'opinion, des médias, on ne sait pas, à la limite on ne sait pas d'où ça vient. Ce qu'on appelle le politiquement correct, qu'est-ce que c'est d'autre, hein? Ce sont des formes de sacré ou de tabou que l'on recrée. On ne peut pas vivre dans des sociétés où il n'y a plus ni barrières, ni interdits, ni rien. C'est tout simplement pas viable, hein? Et puis la deuxième chose, c'est que je crois quand même que ce que l'on considère comme du relativisme, alors qui n'est pas loin du nihilisme, bien souvent, au fond, on regarde cela comme une forme de nihilisme tout à fait moderne, étrange, où tout est vrai, tout est faux, rien n'est vrai, rien n'est faux, ça n'a jamais existé. Mais au fond, quand on regarde bien, on s'aperçoit que ce relativisme que nous avons sous les yeux, c'est tout simplement le monde des mythes ni vrais ni faux que l'on trouvait dans l'Antiquité avant le christianisme. Alors j'ai pris l'exemple de quelqu'un comme Habermas ou quelqu'un comme Rorty. C'est naturellement beaucoup plus vrai pour Rorty parce que Rorty est beaucoup plus clairement un relativiste. Donc, prenons par exemple Rorty. Non, lui, il dit qu'il est pragmatiste. Bon, il parle de pragmatisme, on peut parler de relativisme, mais lui, il récuse cela. Bon, peu importe. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a ni vrai ni faux, finalement. Mais en même temps, il se précipite sur la valeur de solidarité et il dit qu'il faut être solidaire. Alors, si rien n'est vrai, rien n'est faux, pourquoi être solidaire, finalement? Eh bien, il est tout simplement en train de recréer un mythe qui se promène dans l'atmosphère et qu'il a récupéré, qui vient d'avant, bien sûr, qui rien n'est créé ex nihilo. La solidarité, ça vient de très loin. C'est même un concept qui traîne dans la poussière et on ne sait plus très bien ce que c'est. Donc, il le récupère, il en fait son affaire et il dit ben, « ceci est important ». Mais il n'y a que lui qui le dit, finalement, enfin, peut-être d'autres, mais je veux dire, il n'y a pas de fondement pour dire que ceci est plus important que cela. Habermas dit ben, « moi, ce qui m'importe, c'est l'égalité ». Donc, soyons égalitaires. Mais Habermas n'a plus de fondement, puisqu'il n'y en a ni vrai ni faux non plus. Alors, quand on lui demande où sont les fondements, il répond « ce sont nos intuitions ». Voilà. Je pense qu'on est vraiment là au stade de la sagesse antique.
Oui, sauf que vous citez Habermas, parce qu'effectivement, qui est plutôt dans l'idée qu'il y a des vérités procédurales, donc quand on va réussir à se mettre ensemble.
C'est la procédure.
Voilà. Ou mais le même Habermas, depuis quelques années, au regard de ce fameux dialogue entre lui-même et le cardinal Ratzinger, montre bien que l'épuisement du nihilisme ou de la société dans laquelle nous vivons laisse à supposer qu'il importe peut-être de redonner du sens en allant puiser ou regarder ce qui se passe dans les religions pour sortir de cela. Donc il y a peut-être aussi une conscience au sein même de ceux que vous critiquez qui se rendent compte de l'impasse dans lequel ils sont.
Et c'est-à-dire, ce sont des gens qui se... Alors on pourrait en citer d'autres. D'ailleurs, Je n'ai rien contre ces deux auteurs, dont j'aime beaucoup les œuvres, mais... Ce sont des gens qui se rendent compte qu'on ne peut pas vivre dans le nihilisme, qu'il faut ressaisir des points d'ancrage. Mais comme ils ne veulent plus ressaisir des vérités parce qu'ils considèrent qu'elles sont fanatiques, parce qu'ils n'y croient plus, bon, tout ça peut se comprendre très bien, eh bien, ils vont puiser à nouveau dans le catalogue, le répertoire que nous avons sous la main, un répertoire culturel. Et si vous voulez, au milieu de toute cette culture déconstruite, finalement, ils vont aller ressaisir ce que j'ai appelé des lambeaux ou des débris ou des morceaux, un peu comme les pierres d'une maison qui aurait été déconstruite. Et ils vont reprendre, bon voilà, une pierre qui s'appelle égalité, une autre qui s'appelle solidarité. Ils ne vont pas vouloir reconstruire une cathédrale, surtout pas, parce qu'il ne faut pas de système, il ne faut pas de cathédrale, il ne faut pas de dogme, il ne faut pas de clair, il ne faut pas tout ça. Tout ça, c'est interdit. Mais ils vont ressaisir des morceaux qu'ils vont aligner et dont ils vont dire, bah, c'est ça qui est important. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je dis que le nihilisme a fait son temps. C'est parce qu'on voit des gens comme ça, qui sont des gens parfaitement sérieux, et qui pensent, qui réfléchissent, enfin, et qui veulent bien faire en plus. Bon. Et qui disent, non, on ne peut pas rester comme ça dans le néant. Donc, allons chercher quelques lambeaux qui nous importent, et puis mettons-les devant nous et essayons de persuader nos contemporains que là, il faut y croire. C'est-à-dire que ça va devenir, au fond, ce que j'appelle des mythes, c'est-à-dire des choses qui sont en permanence répétées, des chansons dont nous berce la nourrice, des choses dont on va dire qu'elles sont importantes et auxquelles on croit, mais qui sont ni vraies ni fausses, parce qu'au fond, elles ne sont pas fondées.
Mais... Faisons un peu l'avocat du diable, est-ce qu'on ne peut pas considérer quand même que l'ère de la sagesse, donc le fait de trouver par soi-même ses propres points d'ancrage, de ne plus se référer à des systèmes tout faits, cette sagesse-là est à la fois plus exigeante et à la fois plus adaptée à un temps qui est effectivement, comme vous le dites, mais on peut le comprendre au regard de l'histoire que nous avons connue au XXe siècle, a peur de toute forme de vérité qui, d'une manière ou d'une autre, si on commence par un petit bout, va nous amener à ces totalitarismes que l'on a connus autrefois.
Mais vous avez raison, je pense que c'est très adapté à ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire surtout de nous débarrasser de ce qui nous a fait du mal jusqu'à présent. C'est-à-dire que nous voulons une morale, mais nous ne voulons plus les systèmes qui sont derrière. Ça a d'ailleurs commencé au 19e, parce que finalement, au 19e, il y a quand même un certain nombre d'auteurs qui commencent à rechercher une religion sans religion, c'est une croyance sans religion, un Christ sans Église. On trouve ça par exemple chez Tolstoï, chez un certain nombre de gens. Donc effectivement, c'est, comme vous le dites, c'est parfaitement adapté. Mais je pense que c'est durable. C'est précisément ce que je dis. Je ne pense pas du tout qu'on est dans un moment de bascule où on va tomber dans le néant. Ou... Pas du tout. Je ne pense pas non plus que par un mystérieux mouvement de balancier dont on parle toujours, on va revenir, comme le balancier d'une horloge, à la religion d'antan. Je ne pense pas ça. Je crois qu'effectivement, c'est à la fois adapté et durable. Je veux simplement montrer ce qu'on est en train de perdre en même temps, c'est tout.
Alors, vous citez, c'est très étonnant, enfin, vous parlez de Tolstoï, une correspondance entre Tolstoï et Romain Rolland, où Romain Rolland dit « Le bonheur, c'est ne pas penser ». Donc, c'est là où vous développez cette idée du sentiment océanique, enfin, pris et repris à Freud, qui serait, donc peut-être la sagesse moderne, une forme de béatitude, de l'indétermination, le sentiment de ne pas penser, de ne pas avoir besoin de penser, de rester dans son petit confort personnel. Est-ce que c'est ça, ce sentiment océanique, donc d'être comme un nageur dans l'océan, porté par quelque chose, sans savoir où on va, et avec une dissolution de soi dans un grand tout, qui... Et la vérité de demain, enfin, ce qui va d'une manière ou d'une autre être l'élément le plus important pour les sagesses
non,
de demain.
Non, l'élément le plus important, je ne pense pas, mais le sentiment océanique m'a intéressé parce que c'est un signe. C'est le signe d'une certaine pensée qui, non pas qui naît, mais qui renaît. Parce que finalement, on trouve déjà ce type de sentiment ailleurs et avant. Donc, ça m'intéressait de voir cela qui revient en force, déjà depuis à peu près un siècle. Le sentiment océanique, c'est au fond, c'est Romain Rolland qui remet ça. Freud en parle après, mais... Et puis aujourd'hui, nous avons quelqu'un comme Michel Hulin, par exemple, qui en parle. Et je pense que c'est le signe du retour de ce qu'on peut appeler les sagesses, mais c'est peut-être au général, aussi d'une certaine forme de panthéisme, d'une certaine forme d'abolition du moi, parce que finalement, dans le sentiment océanique, le moi se noie. Hein. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'aujourd'hui... C'est là aussi, ça m'intéresse de trouver quelques lecteurs pour ce livre. Ce qui m'intéresse, c'est que énormément de personnes confondent le sentiment océanique avec le fiat. Ils disent, voilà, c'est une nouvelle forme de fiat, alors que c'est tout à fait le contraire. Le fiat qui se donne, j'ai lu ça récemment dans le livre d'un sinologue, finalement, entre tel penseur chinois et puis Saint-Paul, il n'y a pas beaucoup de différence, puisque d'un côté, il y a quelque chose, alors qu'il ne nomme pas comme le sentiment océanique, mais qui ressemble à cela, une fusion dans le tout. Et de l'autre, il y a la fusion en Dieu. Ça n'a absolument rien à voir. La fusion en Dieu du chrétien, ce n'est pas une fusion totale. Le moi reste, il est toujours distant. Il y a une relation entre Dieu et la personne, mais la personne, elle ne disparaît pas. C'est complètement différent.
Ouais. Alors, pour bien comprendre, à la limite... Bon, en revenir à une sagesse antique, en revenir à une sagesse païenne, se fondre dans le tout, ne plus penser à la mort, à la vérité.
Oui, c'est ça, oui.
Après tout...
C'est peut-être génial.
Voilà, c'est peut-être très bien, c'est confortable, ça ne pose pas trop de problèmes.
Je pense.
Qu'est-ce qui se perd ou qu'est-ce qui laisserait à supposer que ce qui se perd est plus important que ce qui se gagne?
Ah, mais ça, c'est à chacun d'en décider. Personnellement, j'ai choisi.
Alors, qu'en pensez-vous, justement c'est ça,
Personnellement, je préfère largement le tragique assumé et tout ce qui va avec. Hein. Mais simplement, oui, le choix est à chacun. Mais simplement, je ne pense pas que mes contemporains aient vu jusqu'où ça allait les mener. Voilà, c'est tout. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte que, très probablement, on court à des gouvernements autoritaires, on perd l'autonomie de la personne, l'idée même de personne... On perd le temps fléché et un certain nombre de choses comme ça. Donc, si vous voulez, je pense que c'est une transformation réelle de culture et même de civilisation. Tout dépend de ce qu'on entend par là. Et je crois qu'on n'a pas encore saisi ça. On est en train de se dire, après tout, les sagesses, c'est bien, on garde la morale, parce que les gens ne sont pas immoraux ni amoraux. Hein. C'est pourquoi, d'ailleurs, le nihilisme ne prend pas. Hein. Ils ne veulent pas démolir toutes les barrières ni devenir des barbares. Hein. Et donc, finalement, on garderait la morale, c'est ça qui nous importe. Et puis, voilà, on continuerait à vivre comme avant. Mais non, on ne vivra plus comme avant.
Alors, pourquoi régime autoritaire? Parce que, justement, vous parlez de la sagesse antique. C'est bien dans le cadre de la sagesse antique qu'est née la démocratie. Donc, pourquoi est-ce que, pour vous, le fait de continuer dans cette voie qui est la nôtre, celle de la sagesse, nous conduirait à avoir des régimes autoritaires?
Parce qu'à partir du moment où la démocratie n'est plus assumée et n'a plus véritablement de signification, puisque vous n'avez plus ni la personne, ni la vision du monde, la démocratie se dilue. Et d'ailleurs, c'est bien ce qui est en train de se faire avec la gouvernance. L'Europe, qui ne croit plus qu'à la gouvernance et plus au gouvernement, les Européens, les dirigeants européens ne parlent plus que de gouvernance, l'Europe n'est pas une démocratie. L'Europe est un gouvernement autoritaire. On pourrait citer des exemples. Et donc, je pense que tout naturellement s'instaure des gouvernements autoritaires. Ce n'est pas forcément le despote asiatique qui gouverne comme il y a 2000 ans. Ça peut être beaucoup plus soft. Mais au fond, quand on regarde les choses, l'Europe fait voter un peuple pour lui demander s'il est d'accord avec une constitution. Si le peuple vote mal, l'Europe se débrouille pour que ça passe quand même d'une autre manière. Il y a plusieurs manières de faire et on pourrait citer les pays dans lesquels ça se fait. Ça, c'est une manière de gouverner que j'appelle autoritaire. Je ne dis pas que c'est de la tyrannie, n'employons pas les grands mots tout de suite. Hein. Mais c'est un pouvoir autoritaire soft et je pense que c'est ça un peu qui nous pend au nez.
Donc vous dites qu'il y a là le risque effectivement d'une forme de despotisme doux dont parlait Tocqueville, qui effectivement donc de s'occuper de ses petites jouissances personnelles, je reprends Tocqueville, de ses jouissances personnelles, du cadre général de sa vie, parce que les individus se désintéressent de tout cela et que l'État tutélaire et omniprésent
l'État fera tout.
Peut s'occuper de tout. C'est plutôt ça l'autoritarisme dont vous parlez, plutôt que l'autoritarisme dur et violent.
Oui, mais naturellement, parce que la violence, ça ne se fait plus, voyez-vous. Mais Tocqueville était un prophète, hein, il a quand même laissé aussi un petit chapitre de 2 pages sur le panthéisme, c'est quand même incroyable. Mmh. Les démocraties vont au panthéisme. Alors évidemment, c'était l'époque de la querelle du panthéisme en Allemagne, donc c'était l'époque où on en parlait. Enfin, c'est quand même assez impressionnant ce que Tocqueville a écrit.
Alors, il y a une objection qu'on pourrait vous faire et que je n'ai pas réussi à lever au regard de votre livre. C'est la chose suivante. Par rapport aux définitions que vous donnez de vous-même, il y a à la fois cet ancrage, disons, conservateur-libéral d'une part, et puis cet ancrage, disons, judéo-chrétien. Bon. Est-ce qu'on ne peut pas dire que, d'une certaine façon, la situation actuelle, qui est la nôtre, n'est que la conséquence du libéralisme tel qu'il s'est progressivement développé et imposé dans la pensée politique, et puis pour avoir, si on pousse jusqu'au bout la pensée libérale, elle consiste à avoir en face du marché non pas des corporations, non pas des groupes qui peuvent résister, qui pensent à autre chose, mais des atomes qui sont susceptibles d'être soumis au seul plaisir immédiat et futile qui serait leur, et donc dans une relation de consommation. Est-ce que donc, voyez, est-ce que le libéralisme que vous défendez d'une part ne s'oppose pas complètement à un ancrage judéo-chrétien qui, par ailleurs, est le vôtre ? C'est-à-dire, est-ce que, d'une certaine façon, la part de judéo-christianisme en vous ne s'oppose pas frontalement part de libéralisme qui est en vous.
Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Mais bien sûr, de toute façon, le libéralisme, au fond, est né dans un lieu judéo-chrétien et en même temps, il prépare sa perte. Bon, c'est ce que voulait dire Gaucher quand il disait la religion de la sortie de la religion. Le christianisme est constamment en train de scier la branche sur laquelle il est assis, bien sûr, puisqu'en donnant la liberté aux individus, les individus se retournent contre lui. C'est comme un père de famille qui donne la liberté, qui finit au cachot. Bon, ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Alors, vous avez raison, il y a peut-être des contradictions. Cela dit, quand je dis que je suis libéral, vous savez, moi je suis très... Ce que j'aime quand même, c'est l'équilibre. Et je suis libéral parce que je trouve que la pensée libérale n'est pas assez développée, n'est pas assez défendue. Mais si nous étions dans un siècle ou dans un pays extraordinairement libéral, je pense que à ce moment-là, je n'adopterais pas ce point de vue. Je pencherais plutôt de l'autre côté. Vous voyez, donc je ne suis pas ultra-libéral. Alors, effectivement, il peut y avoir une contradiction entre libéralisme et judéo-christianisme, mais il y a aussi un lien, puisque le libéralisme s'épanouit dans un système de liberté. Or là, nous avons à l'origine quand même un Dieu qui donne sa liberté à l'homme. Et ça, c'est tout à fait impressionnant, et tout à fait étonnant. Vous avez un homme qui est assez grand en lui-même, parce qu'il est une personne, pour décider de ce qu'il va faire. À la fois ce qu'il va faire pour lui-même, ce qu'il va faire pour la société. Donc après, ça peut se retourner dans tous les sens. Mais bon, je pense qu'il faut, assumer tout. On est content de la liberté, il faut assumer les conséquences. On ne prend pas le château sans les dettes. Alors après, qu'il y ait des contradictions internes, mais ça c'est bien possible, oui, bien sûr.
La dernière chose auquel m'a fait penser votre livre, on a un peu l'impression, même si ce n'est pas formulé comme ça, mais que vous êtes un peu dans la position au IIe siècle d'Irénée de Lyon, qui constate un peu le développement de la gnose, c'est-à-dire le développement de ces vérités à la fois partielles et contradictoires, de ces réalités de sagesse qui auraient besoin, c'est ça le travail d'Irénée, auraient besoin, ou il met en opposition à cela, effectivement, les vérités du christianisme, telles qu'il l'entend lui-même et pas telles que d'autres l'entendent. On a l'impression qu'il y a un peu ce réflexe-là, à la fois de réhabilitation ou de recompréhension de ces vérités chrétiennes ou cette vérité chrétienne d'une part, et deuxièmement, de cette opposition par rapport à tout ce que vous décrivez, qui finalement n'est qu'un autre mot de la gnose tel que Irénée le décrivait au second siècle. Est-ce que je me trompe?
Alors,
ou est-ce
que... Je ne sais pas, parce que je ne connais pas assez bien Irénée. Je ne l'ai lu qu'une fois, et il y a fort longtemps, pour ma thèse. Donc il y a déjà quelque chose comme 30 ans que j'étais en train de faire ma thèse. Donc je serais bien incapable d'avoir dans la tête une image bien précise de cela. Donc il faudrait que j'y revienne. Vous allez me donner les références de ces passages-là. Mais d'ailleurs, ça m'intéressera beaucoup, parce qu'effectivement, il n'est pas impossible, et quand on lit les textes de Paul, on le voit, je trouve, que nous soyons aujourd'hui devant un spectacle qui ressemble un peu à celui devant lequel se trouvaient les premiers chrétiens. Ce n'est pas impossible. Je pense qu'il faudrait encore approfondir. D'ailleurs, je vais continuer, après ce livre, à approfondir les mêmes choses, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à écrire là-dessus. Et bon, j'ai retrouvé encore beaucoup d'idées qui, non seulement qui tournent autour de cela, mais qui corroborent ou qui peuvent déstabiliser certains passages. Enfin, je crois qu'il y a encore beaucoup à faire.
Écoutez, merci d'être venu comme ça jusqu'à nous.
Donc, merci à vous.
Non, mais je vous en prie. Donc, je renvoie donc à votre dernier livre, donc, qui va, si j'ai bien compris, comme ce que disait Foucault, des relais de poste, donner naissance à un nouveau livre. Donc, L'âge du renoncement, qui vient de paraître donc au CERF et qui essaye de bien prendre conscience, ce qu'on a essayé ensemble de voir un peu. Et donc, je renvoie nos lecteurs à votre livre, donc de bien prendre conscience de cette transition dans laquelle nous sommes, plus que nous pensons et peut-être moins que certains l'imaginent. Donc, cette transition entre un âge qui est réglé d'une manière ou d'une autre par la religion ou autour des problèmes de religion, à cette sagesse qui a son côté positif, mais, et c'est ça l'objet de votre livre, de montrer que derrière les aspects positifs, il y a aussi beaucoup d'aspects négatifs, et nos contemporains se doivent, et le seront grâce à votre livre, d'être avertis de ces risques-là, de ces problématiques-là cachées, et qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, apparaître de façon un peu plus évidente dans les temps qui viennent. Chantal Delsol, merci.
Merci à vous.